Bienvenue au podcast Tupica, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Je l'ai eu cette fois-là. Je viens juste d'enregistrer l'intro du podcast que vous avez entendu avec Sarah Baribeau il y a quelques semaines, où est-ce que j'avais complètement chié le début du podcast. Ben pas maintenant. Maintenant, je l'ai eu. Cette semaine, on reçoit Benoît Boulanger sur le podcast. Benoît, c'est avant tout un athlète de CrossFit de très, très haut niveau. Vous allez le voir si vous écoutez la version vidéo. Il y a la shape d'un gars de CrossFit, mais c'est aussi, et de façon tout aussi importante, un gars qui est au doctorat en nutrition. Il s'intéresse particulièrement à nos comportements nutritionnels, j'imagine que c'est ça le mot. Puis, évidemment, avec un aspect sportif. Il s'intéresse d'ailleurs à la nutrition intuitive, mais la nutrition sportive intuitive. On fait la distinction durant le podcast et on parle de, évidemment, plusieurs concepts de nutrition sportive. Ben y amène vraiment une vision extrêmement intéressante parce qu'il n'y a pas le profil type de quelqu'un qui va prôner l'alimentation intuitive. Il y a même des bémols par rapport au concept qu'on se fait dans la société de la nutrition intuitive. Il nuance ces choses-là, ce qui est extrêmement important en nutrition. Beaucoup de nuances dans la conversation qu'on a. On parle de carb loading, on parle de justement de glucides en général, on parle de, mon Dieu, on parle de 1 million d'affaires. C'était vraiment une conversation fascinante. Je trouve que Ben, il s'exprime super bien, puis on va le recevoir encore sur le podcast, j'en suis certain. Fait que c'est ça, dans le fond, parler à nutrition, le podcast présenté par Upica. On a 3 produits en ce moment. Le Upica Endurance, le Upica Endurance Plus, le Upica Récup. Le Upica Endurance, c'est tout ce que vous avez besoin pour pendant l'effort. Fait que 25 g de glucides, 300 mg de sodium, des électrolytes. On a des glucides à vidange gastrique rapide pour éviter les inconforts digestifs. Les commentaires sont à 100%, dans le fond. C'est aussi simple que ça. Les commentaires sont à 100%. Tout le monde capote. Tout le monde qui l'essaye, l'adopte. Le Endurance Plus, c'est avec 100 mg de caféine en plus de ce que je viens de décrire là. Et le Upica Récup, ben c'est pour après l'activité, c'est pour déclencher tous les processus de récupération. Vous allez voir dans le podcast avec Ben, on commence la conversation. On a commencé à tourner dans le fond en plein milieu d'une conversation, là, puis on parle du Upica Récup, de pourquoi j'ai choisi de mettre des acides aminés essentiels au lieu d'une protéine complète dans le mix. Fait que vous allez voir, on discute de ça. Super podcast. Si vous allez là, je parle du podcast, mais j'étais rendu à la pub. Écoutez, grosse journée, je suis mêlé un peu. Fait que si vous voulez commander 10% de rabais sur votre première commande, utilisez le code UPICA Podcast en un seul mot pour 10% sur votre première commande, comme je viens juste de dire, au upica.ca. Fait que excusez l'intro décousue. Grosse semaine. Gros mois en fait. Grosse année. Pour vrai, un bon gros 5 dernières années, là. En fait, depuis que je suis plus à l'université, man, un gros 10 ans, là. Un bon vieux 10 ans de comme... Ouh. Anyways, j'espère que vous allez aimer la conversation. Je vais aller me coucher, man. Fait que salut, mon podcast. Ouais, ben on check, on ça roule, man. On enregistre. On se demandait, juste pour ceux qui écoutent, on se demandait s'il y a des trucs que je voulais pas parler. Puis là, Ben il m'a posé une question sur le Upica Récup, dans le fond. Pourquoi choisir des acides aminés à la place de prendre de la protéine complète? Parce que j'y ai pensé. J'ai pensé prendre de la protéine complète. On a même fait des tests avec de la protéine de riz puis de la protéine de pois.
De poisson, ouais.
Mais parce que je voulais que ce soit vegan, là, évidemment.
Ouais, ouais, ouais.
Puis ce qui faisait vraiment chier, c'était la texture. Puis la texture, ouais. L'espèce de texture laiteuse, on n'était pas capable de s'en sortir. Genre, on n'était pas capable de faire autre chose.
Ouais, ouais.
Puis l'idée, c'était que tu aies envie, après un effort de longue durée, mettons, où t'as eu chaud dessus en masse, t'avais envie de boire de quoi, tu sais. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui n'est pas une protéine complète, mais qui peut démarrer le processus de synthèse musculaire, démarrer le processus de récupération, mais qui donne envie de boire, tu sais. Fait que, puis on le brand pas comme étant un shake de protéines, tu sais. Puis après ça, l'autre affaire qu'on réfléchissait en faisant ça, c'est comme de la prot vegan, il y en a quand même pas mal. Si tu veux ta prot vegan, tu sais, moi ce que je fais quand j'ai vraiment des gros workouts, c'est que je prends un scoop de Upica, en récup aussitôt récup que je finis, mais après ça, je prends un scoop de prot vegan aussi, tu sais. Fait qu'on va peut-être en faire éventuellement de la prot vegan, mais ça va être comme ça, t'sais.
Ouais, parce que tu dis souvent ça, genre, il existe déjà ce produit-là, mais tu sais, au final, il y en existe plein de tous les produits.
Genre, exact, c'est ça. Sauf que je me suis dit, c'est moins criant comme besoin parce que ce produit-là, ou l'équivalent moins bon, évidemment, que le Pica Recup. Moi, j'en prenais déjà, des produits de même, mais qui venaient des États-Unis, puis fallait que je le commande, fallait que je le fasse venir, puis ça me faisait un peu chier. Fait que je me suis dit, il y a cet espace-là ici. Alors que pour la protéine vegan, ben, tu sais, je peux aller en acheter n'importe quel shop. Believe, entre autres, mon ami Julien. Fait que, bref, c'est ça.
Yes.
Mais je suis content de savoir que ça t'intéresse.
J'essayais tout le temps de voir justement c'était quoi. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de mes clients qui commandent du Upica. Je suis renseigné sur le truc juste parce que aussi j'ai de la clientèle qui en consomme. Là, fait que
très cool.
Je le connais quand même bien.
Très, très cool. Fait que, hey, l'intro, en fait, qu'on est dans ton, dans ton gym. Le Garage Grind chez tes parents. Moi, man, ça me fait penser. Hey, une coccinelle. C'est ça, l'arrêt, les fenêtres sont ouvertes. Ça me fait penser quand Michael Phelps est arrivé en 2008 aux Olympiques. Il y avait eu un reportage qui avait été fait sur la piscine où est-ce qu'il allait s'entraîner à Baltimore avant qu'il devienne comme qu'il blow up puis qu'il devienne vraiment next level. Puis c'était, man, tu sais, des bords de chin-up rouillés. Fait qu'il y a quelque chose dans l'esprit. Quelque chose dans l'esprit du garage grind. Toi, tu me disais que tu avais buildé ça pendant la COVID?
Ouais, exact. Avec mon frère, ma soeur, c'était un truc de famille. Puis la dalle de béton, tu peux le voir déjà là. Éclaté.
Ah ouais, hein, juste à dropper les affaires, dropper les.
C'est genre, on dropait des clean à 315 puis 315 livres, puis on brassait de la barre. On voulait pas arrêter de s'entraîner, puis au début, on sentait qu'elle pétait en dessous des tapis, puis on a comme fait. Ah, gars, elle va péter.
On accepte ça.
Le truc. Fait que là, aujourd'hui, quand tu droppes des poids, il y a de la poussière qui lève.
Ah ouais, hein? Bon, mais ça ajoute au charme.
Charme de la place. Puis tout le stock aussi, genre de.
Les caisses de tomates en arrière.
Exact, on a l'air des freaks de la tomate.
Ouais. Je pense que je vais fermer ça, man. T'as pas.
On doit l'entendre. Clairement.
Mais écoute, bon, on continue. Qu'est-ce qui t'a amené dans le CrossFit? Tu me disais que tu venais un peu de la natation, course, c'était ça que tu faisais?
Ouais, c'était ça mon atout, là, c'est ça que je voulais dire tantôt. Ouais. Mais au départ, j'étais un joueur de football au secondaire, puis un joueur de soccer. Fait que je courais beaucoup, puis j'étais un cure-dent. Je suis petit aujourd'hui, là, mais j'étais vraiment.
Ben, on s'entend. Relativement.
Pour mon sport, je suis de loin le plus petit. Ouais. Mais fait que je finis le foot, je suis sélectionné comme pour jouer collégial, mais. Je le sais très bien que j'ai pas d'avenir là-dedans. Puis moi, mon rêve jeune, c'était devenir athlète professionnel. Fait que si je jouais au soccer, j'étais comme, hey, je vais jouer dans la FIFA. Puis tu sais, j'étais comme delusional. Je voulais jouer pour le Brésil. Mais
Peu importe, c'était quoi le sport que tu faisais, c'est ça que je voulais faire.
Exact. Ah ouais. Là, j'ai joué au foot. Il fallait jouer dans la NFL. Ouais. Je voulais être athlète professionnel de mon sport. Fait que là, le foot fini, j'arrive au cégep, je me rends compte que je me fais exploser. Tu sais, je me suis littéralement disloqué les deux épaules à répétition. Là. Puis là, je commence un nouveau sport qui n'est pas le CrossFit, mais qui donne sur une porte de garage ouverte de monde qui font du CrossFit. Fait que là, je vois du monde qui s'explose, qui.
C'était quoi ce sport-là? T'as commencé quoi?
Ah, c'était le MMA.
OK.
Dans un club à côté, j'avais besoin sûrement de passer de l'agressivité, mais encore là.
Vouloir devenir professionnel en MMA, man. C'est ça. C'est en ligne sur une affaire.
C'est en ligne sur de quoi? Puis en plus. Tu sais, j'étais tellement pas agressif. Pas une nature agressive. Même au foot, je l'étais pas. Fait que là, dès que j'avais l'opportunité de puncher quelqu'un, ben, je le faisais pas. Puis je me disais que j'allais attendre. Fait que c'était n'importe quoi. Fait qu'au final, j'ai la porte de garage ouverte. Je vois le gym de CrossFit du monde dégueulasse dans le rouge qui tire sur des rameurs, qui soulève des poids. Puis là, j'étais genre, hey, ça, c'est hot.
Tout le monde dans le rouge.
Ouais, puis là, tu sais, du monde qui. que leur compétition, c'est la forme, c'est l'entraînement. Ouais. Parce que moi, quand je jouais au foot, j'aimais ça m'entraîner.
Ouais.
J'aimais ça les pratiques où on faisait des gros big three. Là, c'est genre des allers-retours, c'est les mêmes, des affaires de même. Puis ça me craquait. Puis là, même affaire pour la boxe puis le kickboxing, j'aimais ça le côté entraînement, le côté Rocky un peu. Fait que là, je voyais ça puis j'étais comme, c'est juste ça qu'ils font. Puis c'est ça, la compétition même.
Toi, c'était le training, c'est ça. Hein? Il y a beaucoup de monde que c'est ça puis que... par la force des choses, mettons, ils le réalisent comme pas.
Ouais.
Puis, ils arrivent dans des compétitions. Moi, ça m'a fait ça dernièrement, où est-ce que je suis arrivé à une course, puis là, j'ai fait, hey man, c'est pas ça l'affaire, man, me lever à 3h, mettre un dossard, puis partir, man. On dirait que ça me tente pas. Puis, de réaliser la différence entre, c'est pas parce que tu fais ce sport-là que t'es obligé de compétitionner, tu sais. Moi, c'est l'entraînement, puis si ta compétition, c'est un entraînement, c'est hot quand même.
Ouais, vraiment. Puis, tu sais, il y a tout le temps. Au final, tu sais, te prendre dans le jeu, puis là, il y a une différence entre la compétition de CrossFit puis l'entraînement de CrossFit, mais reste que c'est toujours un peu dans ce principe-là. Puis, tu sais, fait que je pogne la piqûre super vite du CrossFit, puis là, en même temps, je rentre au cégep, puis là, j'ai des envies de nutrition sportive, etc. Je me renseigne là-dessus, puis c'est là que je rentre dans le bac, puis que là, les deux mergent dans un peu mon rêve d'être athlète professionnel, puis d'être nutritionniste.
Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'intéresse dans la nutrition sportive à ce moment-là? C'est quoi tu te dis? Tu te dis-tu genre, hey, il me semble que je veux maximiser mes gains ou genre, t'es-tu plus en mode, je veux grossir, ben,
comme
prendre la masse?
Comme un gars de 16 ans comme qui un gars gros de 16 comme un cure-dent, on l'a tout vécu. Mais non, mais au début, c'était le classique nutrition sportive. Puis, tu sais, turns out, quand on va parler de nutrition sportive, tantôt, tu vas voir, j'ai évolué là-dessus.
Ouais,
mais...
ouais.
C'était le classique, je voulais prendre la masse musculaire, je voulais comprendre c'est quoi les protéines, je voulais voir c'est quoi la récupération, comment mieux performer, tout ça. Puis j'étais vraiment dans l'excès, la restriction, j'étais beaucoup dans le bodybuilding YouTube. Là.
Le genre loup. Poulet brocoli, sauce pas de sucre, puis ces affaires-là.
Sauce pas de sucre, etc. Fait que tu sais, j'étais beaucoup là-dedans, jeune, puis justement à force d'évoluer dans... mon bac, puis le sortir du bac, faire ma maîtrise en comportement alimentaire, toutes ces choses-là sont devenues genre un petit peu plus nuancées pour finalement adopter justement une vision complètement différente de qu'est-ce que c'est la nutrition sportive aujourd'hui. Là.
C'est fou, hein, parce que moi, au gym que j'allais, puis là, je vais pas nommer les gyms, puis ça peut, c'est très, très pas important, là, mais ils mettaient des vidéos YouTube sur les écrans, puis c'était du vidéo de genre de fitness.
Ouais.
Puis tout ce que tu viens de dire là, l'espèce de...
Culture
autour de la fitness. Mais moi, je regardais ça, puis tu sais, j'allais au gym pour courir sur un tapis. Là. Moi, c'est bien rare que je lift. T'sais, je lift des fois, puis c'est vraiment pas ce que j'aime faire le plus.
Spécifique
course, exact. Mais je regardais ça, puis je me disais tout le temps, il me semble que c'est pas intéressant. Genre, c'est pas quelque chose qui est durable, man,
c'est
de faire
durable,
ce genre
c'est
de.
La meilleure définition.
Ouais.
Puis, c'est pas sain non plus, tu sais.
Ouais.
Puis, tu sais, même si souvent c'est pris, sorti en fait de son contexte du sport, du bodybuilding, de compétition, mais les sportifs, être un athlète,
c'est
pas nécessairement ça. Là, c'est dans un sport très spécifique. On sort des concepts, par exemple, de quantification des glucides, que manger certains types de protéines, couper le sel, réduire l'eau, des affaires de même, là, qui sont spécifiques au bodybuilding pour un show précis.
Exact.
Alors que toi, ton but, c'est d'être plus en santé, probablement, là, que j'essaie de pousser plus loin, mais aussi d'avoir l'air plus lean, plus athlétique. Ben, c'est pas par ça. Là, c'est pour une journée précise que les autres font ça. Là.
C'est ça, tu sais, l'espèce de cycle de bulking, puis après ça, de cutting, puis juste l'espèce de mentalité de couper les carbs, là, tu sais, pour perdre du poids, perdre de la rétention d'eau.
Eux, c'est le contraire de la durabilité.
C'est ça, exact. Eux autres, ils font ça pour une compétition. Tu l'as vraiment bien dit. C'était la première fois que j'entends verbaliser de cette façon-là que c'est des concepts ultra précis à un sport précis, un sport... Oui, un sport, mais plus une performance, presque artistique, mettons.
Ouais,
là, vraiment. Puis c'est ces concepts-là qui sont sortis puis qui sont réutilisés pour le gars qui, lui...
Mettre en forme. Définition du truc.
Le gars Econofitness à la pyramide qui est là, qui est au cégep puis qui veut se mettre en forme, tu sais. Que lui, il revient chez eux puis il mange du brocoli puis du poulet.
Exact.
Hein,
exact. Comment
tu vas avoir de l'énergie demain matin?
Ça touche tellement les jeunes hommes. Puis là, tu sais, ça touche aussi les femmes vraiment fortement. Là, mais tu sais, pour que je puisse parler par expérience, je dis ça, mais ça touche les jeunes hommes. Puis là, tu sais, en ce moment, avec les différentes chaînes TikTok ou les YouTube Shorts qu'on... beaucoup centré là-dessus, sur la masculinité, puis sur le fait d'être musclé, c'est masculin, etc., ben ça vient affecter beaucoup ces jeunes-là qui vont aller essayer de trouver une information pour soit perdre du poids ou en gagner, tomber justement sur de la mauvaise information, puis se développer, puis pas nécessairement un trouble alimentaire diagnostiqué, mais développer des habitudes alimentaires qui sont extrêmement malsaines. Puis tu sais, ça touche aussi les femmes à 100%, mais en ce moment, il y a comme une culture autour de la masculinité chez les jeunes hommes. Puis tu sais, dans notre centre de recherche, on en parle beaucoup, mais c'est assez brutal ce qu'ils peuvent vivre là, en termes de t'es pas valable si t'es trop mince, puis t'es pas valable si t'as du gras, puis etc. Fait que c'est quand même assez compliqué.
Là. Ouais, ça s'inscrit dans la lignée probablement des Andrew Tate de ce monde.
Je le vois nommer, mais
qui partage exactement,
c'est 100%
qui cible exactement. Ces jeunes garçons-là, puis que ces jeunes garçons-là, ils n'ont pas nécessairement les connaissances pour être capables de caler la bullshit sur ça, tu sais. Puis c'est à un moment, on le sait, on a été des jeunes garçons éventuellement. On a été des jeunes garçons par le passé. Puis.
Éventuellement.
Ouais, éventuellement, on va être des jeunes garçons. Puis on est super impressionnables facilement.
Ah, on cherche, puis il y a plein d'affaires que. Faut trouver, puis c'est correct de faire des erreurs parmi ce chemin-là, mais reste que c'est plate qu'il y ait cet exemple-là ou que ce soit ça leur guide, c'est ça qu'ils veulent aller chercher.
Tout à fait. Puis pour en revenir à la nutrition, quand tu as commencé à t'intéresser à la nutrition, que tu es rentré à l'université là-dedans, puis c'est quoi? C'est quand qu'il y a eu un déclic de quand, OK, c'était pas ce que je pensais, là?
Ben, le bac est zéro centré sur la nutrition sportive. Ouais. Fait que tu pognes un 2 minutes quand t'embarques là en te disant, hey, moi, je vais être le nutritionniste des Canadiens de Montréal. Puis là, tu te rends compte que c'est fait pour aller en hôpital. Okay? 80% des nutritionnistes qui sortent du bac vont en hôpital. Fait que c'est pas fait là, pour devenir le nutritionniste d'un athlète professionnel.
Des Canadiens de Montréal.
Mais dans le temps, j'aimais le Canadien. Fait que, fait que tu pognes 2 minutes, puis là, finalement, moi, je me suis rendu... J'allais voir mes profs, puis tu sais, j'étais très passionné par la nutrition, probablement gossant, mais j'allais voir mes profs, puis je leur demandais plus sur la nutrition sportive, puis tout ça, puis il y avait des plus vieux au doctorat qui en faisaient, fait que là, j'allais les voir, puis là, chaque fois, c'était différent de ce que je voyais sur YouTube ou ce que mes influenceurs, dans ce sens-là, c'était pas des influenceurs, mes favoris démontraient. Puis là, c'était full plus nuancé. Puis là, tranquillement, pas vite aussi, ce qui est important à l'université, c'est d'apprendre à faire ta recherche, tu sais, d'apprendre à aller voir dans la littérature puis de faire de la lecture de la littérature. J'apprends ça au début de ma maîtrise. Puis là, OK, là, je comprends que la littérature, premièrement, est en avance sur ce qu'on se dit dans les médias aujourd'hui, beaucoup, là, environ 14 à 17 ans, souvent qu'on dit.
Ouais, puis, ça c'est fou, hein?
Ouais, ça c'est crazy. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires qui sortent comme récemment. Puis là, moi, mettons, j'étais en recherche depuis 3-4 ans. Puis là, c'est comme, hey, ça c'est dans notre milieu, c'est vieux, là. Pourquoi on parle de ça?
Ouais.
On a mis ça derrière d'un boîte déjà, là. C'est la nouvelle mode. Puis c'est comme. Fait qu'en tout cas, je sais même plus ce que je disais, mais.
Ben là, t'es arrivé dans ça, t'as commencé à t'intéresser à la nutrition sportive, à poser des questions aux gens.
Puis là, je peux lire.
Commencer à faire la littérature, ouais.
Exact. Puis là, je me rends compte que, bon, c'est beaucoup plus nuancé qu'on le pense. C'est vraiment pas noir puis blanc comme les gens veulent nous faire penser. Puis c'est là que ça m'amène à découvrir aussi tout le pan de l'intuitivité de l'alimentation, l'inclusivité de l'alimentation par rapport au poids. Puis c'est là que ma maîtrise en comportement alimentaire, mon background de l'athlète qui devient de plus en plus professionnel à ce moment-là, ben là, tout se merge ensemble. Puis là, je suis capable de prendre le temps de me faire une tête sur OK, c'est quoi le message qu'on devrait envoyer en termes de nutrition sportive chez les athlètes jeunes comme vieux qui ont des objectifs très valables de haute performance, même si on sait très bien que c'est pas tout le monde qui va se rendre à un niveau professionnel, mais c'est quoi le message qu'on envoie? Parce que le message d'alimentation intuitive, il est super, il est excellent, je l'adore, mais souvent les gens en nutrition sportive vont pas se sentir concernés. Puis même les coachs qui ont des athlètes, ils vont pas sentir leur athlète concerné. On les met dans une classe à part, les athlètes. Puis c'est vraiment l'excuse qu'on se donne souvent. C'est comme, oh, c'est un athlète, fait que lui, c'est pas grave s'il compte ses macros.
Ouais.
C'est un athlète, c'est pas grave s'il a pas de plaisir alimentaire. C'est un athlète, c'est pas grave s'il sort pas avec ses amis. C'est pas grave s'il manque des anniversaires. C'est pas grave s'il manque des soirs au resto. C'est pas grave.
Parce que c'est un athlète d'excellence.
Parce que c'est un athlète d'excellence.
Ouais.
Alors que c'est faux, tu sais. Tous les athlètes ont entre guillemets, une famille, tous les athlètes ont des amis, une vie sociale.
Ont un cercle autour du sport. Là.
Exact.
Même puis, si le sport demeure le point central, probablement, de leur existence et de leur vie, il y a plein d'autres choses qui gravitent autour.
Je vais toujours me battre, moi, pour essayer de propager l'idée qu'un athlète heureux, là, un athlète qui est bien dans sa vie, est pas mal plus performant qu'un athlète malheureux. Puis mm-hmm. quand on... Puis on va pouvoir parler de nutrition sportive intuitive, comme j'aime l'appeler, ouais, là, mais... Ouais. Un athlète qui va être dans la restriction, qui va être dans les plans alimentaires, qui va être là-dedans, oui, peut-être, même dans un sport là, où le poids est, peut être important, comme par exemple, on parlait tantôt de bike, le wattage par kilogramme. Oui, le poids peut être important, mais il a beau shedder 5 livres, s'il est en dépression, il va faire les pires scores ouais, de sa vie. Il y a des exceptions à ça. Michael Phelps, il a probablement envie de se tirer une balle avant de gagner plein de médailles d'or, puis... fine, mais pour 99,999% des gens, on va être le meilleur, qu'on va avoir du fun, puis quand, c'est toi-même, tu l'as vécu dans ta méga longue course où à un moment donné, t'as plus de fun, t'as fait fuck off, mais t'as pas fait ton meilleur score à vie, Christon. Peu importe à quel point t'aurais compté la quantité de grammes de protéines que t'aurais mis cette journée-là.
Ouais, ou tu sais, j'avais tout mon plan mon plan nutrition avec 75 grammes de glucides à l'heure, je savais exactement quoi prendre quand ma montre sonnait. J'ai pas fini ma course, là, tu sais.
T'as pas fini la course, t'as pas fini la course, bon score.
Ouais.
Fait qu'un athlète heureux, un athlète équilibré va performer, premièrement, beaucoup plus longtemps. On devrait favoriser ça, on devrait encourager ça. C'est les athlètes à place d'encourager des short success. Ouais. Mais still...
Ça, on pourrait avoir un autre podcast au complet comment amener des jeunes jusqu'à nager. Ouais. Jusqu'à faire leur sport billets. Le plus longtemps possible parce qu'ils seront jamais aussi bons que le plus longtemps, tu sais, s'ils arrêtent à 19 ans, c'est sûr qu'ils n'atteignent pas leur plein potentiel. Là.
Au CrossFit, là, on est malheureusement un énorme exemple de ça. On a 3 athlètes super jeunes, là, en bas comme de 19 ans, qui ont très rapidement reach les mondiaux, puis qu'aujourd'hui, ils prennent une année sabbatique parce qu'ils sont plus capables.
Ils sont brûlés, ouais, un burn-out, en tout cas. Ouais. Loin d'être développé au max. Là.
Ouais. Puis ouais. Pour moi, ça a un lien avec justement comment on approche la nutrition sportive. Puis c'est pas à prendre à la légère la façon dont on va percevoir n'importe quoi, mais la nutrition en général. Ouais. C'est pas juste dans comment on l'applique, mais c'est aussi comment justement on le perçoit au jour le jour. C'est tout le temps vu comme un défi, une restriction, une obligation. C'est pas pareil que si on est dans... On mange quasiment les mêmes affaires, mais dans un guide ou un protocole, un cadre alimentaire beaucoup plus flexible qui nous permet d'avoir des événements sociaux, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est ouais. l'essence même de la nutrition sportive intuitive.
Ouais. Juste faire un step back avant qu'on rentre dans ça, parce que c'est vraiment, c'est super intéressant. Tout ce que tu dis, ça fait vraiment du sens. Le concept d'alimentation intuitive.
Ouais.
Concept qu'on a parlé fréquemment, moi, j'ai reçu beaucoup de monde sur le sang fait le podcast, qu'on a parlé de l'alimentation intuitive, qu'on en a parlé beaucoup dans les médias. Moi, on dirait que j'ai encore un questionnement par rapport à ça, parce que une restriction, appelons-la comme on veut, là, tu sais, c'est pas tout le temps négatif. Je te donne un exemple. Je m'en vais dans une soirée, le monde, tout le monde a du fun, puis là, le monde se met à faire de la cocaïne, mettons. Je te donne l'exemple, puis là, je dis pas que j'en fais ou quoi que ce soit, c'est pas ça le point. Là. Mais que là, tout le monde a du fun, puis moi, si je me restreins pas, j'en fais, parce que tout le monde a du fun, tu sais. Mais là, je sais que, genre, j'en prendrais, mais je sais que j'en prends pas, parce que je sais ce que ça va faire sur moi, je sais que c'est premièrement illégal, je sais que. Sauf que. Si tu te restreins pas, si tu fais juste écouter ce que ton corps veut puis tes envies, tu vas en faire, tu sais. Puis après ça, tu sais, j'entends des fois des messages comme si tu as envie de le prendre, c'est ton corps le veut. Puis je me dis oui, mais c'est pas tout ce que ton corps veut ou ce que tu as envie de faire qui est bon à faire.
Ouais.
Moi là, honnêtement, je pourrais descendre à tous les jours une boîte de biscuits, tu sais, les biscuits tradition, genre en gelée. Là. Okay. Si j'allais m'acheter, tu sais, il y a comme de la gelée au milieu.
Ok.
En tout cas, peu importe. Puis, si moi je voulais faire ça à tous les soirs, je pourrais me descendre une boîte. Je pourrais vraiment descendre. Mon corps demande une boîte de biscuits à tous les soirs. Mais faut que je peux pas la prendre parce que je sais les impacts négatifs que ça va avoir sur ma santé, tu sais. Fait que. comment est-ce qu'on réconcilie ces deux idées-là? Parce que l'idée de dire, hey, arrête de te restreindre, 100%. 100% d'accord avec ça, of course. Mais en même temps, on peut pas juste ouvrir toutes les valves de accepter tout ce que notre corps crave, parce que ton corps, il crave des affaires, tu y donnes. Fait que tant que moi, je vais manger ces biscuits-là, là, si demain matin, j'arrête cold turkey de manger ces biscuits-là, dans 3 mois, j'aurai plus de craving de ces biscuits-là. Sauf que faut que j'arrête, faut que je me restreigne pour pas avoir ces cravings-là tout le temps. Comment est-ce qu'on réconcilie ces idées-là? Puis là, je te parle, on n'est pas encore rendu dans la nutrition sportive intuitive,
juste nutrition
intuitive. T'sais, comment qu'on réconcilie ces deux idées-là?
Puis j'avais vraiment hâte que tu... Puis je veux que tu fasses l'avocat du diable. Hein. Je vais vouloir... Parce que souvent, quand même dans les récents podcasts ou dans les podcasts en général, quand on parle d'alimentation intuitive, c'est deux personnes convaincues qui se parlent. Puis il y a souvent... C'est pas nécessairement des commentaires qu'il va y avoir sous la vidéo, mais parfois c'est ça, mais c'est des gens qui vont amener des points vraiment valables, genre ça. Puis là, c'est de faire comme... La personne l'a pas expliqué parce que personne l'a contredit, mais ça s'explique.
Ouais.
Ça, c'est la première fois.
Ouais, exact, c'est ça, exactement, 100%. Parce que si j'ai ces questions-là, je suis sûr que si je le pose à toi, si je le pose à quelqu'un qui connaît ça, va avoir une réponse à ces questions-là. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est important de le faire.
Ouais. Fait que là, c'est un exemple assez harsh, la cocaïne, là.
Mais... Non, mais je te donne cet exemple-là parce que c'est comme...
La meilleure explication que je peux te donner, c'est que ça, la réaction que tu as eue face à la consommation des gens autour, c'est intuitif. Puis ça fait partie de l'alimentation intuitive. L'éducation en nutrition que tu peux avoir, qui te permet de faire des choix alimentaires puis de connaître qu'est-ce que les choix vont faire sur ton corps, puis c'est la même affaire pour la nutrition sportive intuitive, c'est pareil.
Mm-hmm.
Ça fait partie de l'intuitivité de l'alimentation. Okay? Exemple, c'est pas de la nutrition sportive, je suis juste quelqu'un d'actif dans la vie parce que c'est sain, on encourage ça. Je m'en vais courir à 1 heure, puis à midi, il s'offre l'option que je me commande une poutine ou n'importe quoi, parce que je vais pas viser un aliment, mais un aliment très riche en gras, en sel ou en n'importe quoi, puis un repas complet de protéines, sources de glucides complexes, etc. Bon. L'éducation en nutrition que tu pourrais avoir te permettrait de savoir comment tu vas te sentir après un repas riche en lipides et en sel. La digestion va être ralentie, tu vas le sentir dans ton estomac plus longtemps. Tu vas pas avoir nécessairement une énergie constante due à ces sources-là. Il manque de protéines, manque de sources de glucides, etc. Bon. Versus l'autre qui te donne d'énergie plus constante, ta source de protéines qui va t'aider à absorber plus lentement tes glucides, qui va te permettre d'avoir une énergie constante à ton entraînement. Ben ça, c'est intuitif. Tu veux bien te sentir. Souvent, dans l'alimentation intuitive, puis ce qui est défendu là, par les personnes qui la montrent, là, c'est juste souvent ce qu'on oublie de présenter, c'est que ce qui est intuitif, c'est de se sentir bien, c'est d'avoir de l'énergie, d'avoir du plaisir alimentaire. C'est toutes ces choses-là égales. C'est pas juste le plaisir alimentaire. La vie n'est pas autour seulement du plaisir alimentaire. 100%. T'sais. Fait que, ça, ayant cette littératie nutritionnelle-là, fait que ces connaissances en nutrition-là, ben t'as la chance de pouvoir faire un choix intuitif qui n'est pas une restriction. Puis quand je parlais tantôt, je foreshadowais ça, mais quand je parlais tantôt de comment tu perçois quelque chose... ça a un impact sur comment tu vas le vivre, mais ben c'est ça. Si tu le perçois comme une restriction, ok, je me sens que j'ai pas le droit de manger de la poutine jamais. C'est pas ça. Si je veux bien me sentir à mon entraînement, je vais choisir d'avoir un repas complet qui contient des sources de glucides puis des protéines. Fait que c'est 100%. Ça la nuance.
Je comprends absolument ce que tu expliques là. C'est tout à fait applicable à quelqu'un qui fait du sport. Les gens qui nous écoutent, c'est tout à fait applicable à ces gens-là parce que ils vont savoir que, puis moi le premier, quand je mange une poutine, puis que là, il faut que j'aille jogger après, oublie ça. Si je sais que j'ai un training qui s'en vient, je sais que je vais manger de quoi de léger, carbs, tu sais, des carbs un peu avec, mettons, je sais pas, du gruau avec des noix, puis
source de protéines,
n'importe quoi. Mais ça, on le sait. Quand on fait du sport, n'importe qui est déjà allé courir avec une poutine dans le ventre, il est au courant que c'est le pire feeling. Puis ça, on l'évite intuitivement, je suis d'accord avec toi. C'est parce que quelqu'un d'inactif, puis si tu considères que l'intuitivité, on l'a de part aussi nos connaissances en nutrition, de lancer le message collectivement à la société complète, en prenant pour acquis que tout le monde a les connaissances de nutrition pour être capable d'avoir cette intuition-là, il me semble que c'est un peu à côté de la traque.
Comme par exemple, t'sais, là, on pourrait prendre un exemple des gens inactifs, parce que c'est juste, ça demande juste plus de nuances, mais t'sais, Si, par exemple, tu n'as pas l'éducation en nutrition de savoir que si tu répartis pas bien tes sources de glucides dans ta journée, tu vas avoir beaucoup d'up and down. Puis, s'ils sont jamais accompagnés de fibres ou de protéines, ben ça va, tu vas avoir des crashs d'énergie, mettons.
Ouais.
Pas besoin de t'entraîner pour mal filer quand tu travailles à l'ordi. Là.
Ouais.
Tu peux mal filer pareil, puis tout le temps avoir un down vers 3-4 heures, puis tout le temps avoir extrêmement faim, puis pas bien te sentir. Bon. Ben, ça reste que si tu as l'éducation en nutrition, tu peux faire des choix différents. Fait que même si tu n'es pas actif, ça fonctionne aussi.
Ouais.
Mais tu as raison, dans le message populationnel qu'on doit envoyer, il y a ça à intégrer. Par contre, c'est pas... Je sais pas comment dire. C'est normal qu'il y ait un message extrêmement fort d'un côté parce qu'il y a un message extrêtement fort de l'autre.
Faut que ça se ramène au milieu.
C'est le retour du balancé. Fait que, oui, c'est plate. Il y a des gens extrémistes qui vont prôner l'alimentation intuitive souvent de la mauvaise façon, mais c'est pas les vrais experts en alimentation intuitive.
Ouais.
Je vais, mettons, si je cite Karen Gravel, qui est elle un peu au Québec, qui est la pionnière de ça, ben elle va jamais expliquer l'alimentation intuitive comme ça
de
ou
cette
comme
façon-là.
Ces gens d'activistes-là vont faire.
Je comprends.
Fait que c'est toujours
fait ça. Fait que c'est comme le contrebalancier de ceux qui disent « mange pas de carbs
». Exact. C'est ça, ceux qui font la keto.
Ouais, exact, exact.
C'est correct qu'ils existent parce qu'eux autres existent.
Ouais.
Nous autres, on regarde ça au milieu. Puis là,
je comprends.
Dans plein de sujets. Là.
Puis ramenons ça à la performance parce que les gens qui nous écoutent, des athlètes d'endurance qui sans nécessairement être excellents, je pense qu'ils ont mon profil peut-être, ça veut dire mettre beaucoup de temps, aiment faire ça, mais aiment aussi s'améliorer, aiment pousser au maximum leur performance. Comment ça se décline pour toi, l'alimentation intuitive, pour ces athlètes-là, autant ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire utiliser son intuition avant pour se nourrir au courant de la journée, mais mettons pendant un effort,
exact.
Pendant une course, pendant un Ironman, pendant une course de 6 heures sur le bike ou une ride de 6 heures ou quoi que ce soit, ou même potentiellement les CrossFit Games là, t'sais, qui sont sur 4 jours. Là.
Ben, là, tu parles, mettons, du pendant.
Ouais.
Okay? Mais on va en parler, mais il y a un autre aspect aussi, selon moi, à la nutrition d'un athlète. Puis, tu sais, au Upica, on parle beaucoup, beaucoup. On parle. Hey, je suis rendu dans le team.
Yes. C'est l'équipe Upica, man.
Ouais, c'est ça, la famille. On parle. Ça n'a pas de bon sens.
Le
podcast parle beaucoup du intra-workout, du pendant l'effort.
Okay? Ouais.
Mais souvent, les athlètes, il y en a plusieurs qui n'ont pas nécessairement besoin d'une nutrition intra-effort quand c'est pas un sport de haute endurance. Puis, ils ont souvent aussi beaucoup de questions sur le restant de la journée. T'sais, parce que ça va avoir quand même un bon impact sur comment tu vas te sentir pendant ton entraînement.
Ouais.
Puis même si tu as un bon protocole intra-training de glucides, caféine et électrolytes, mais si tu n'as pas mangé de la journée, tu vas filer comme de la merde quand même.
Ouais.
Puis ton entraînement va être de la merde quand même.
Ouais.
Fait qu'il y a aussi beaucoup cet aspect-là en dehors du intra.
Tout à fait.
Pour le intra, c'est moins intuitif. Ça, c'est sûr qu'il faut se l'avouer. Mais encore là, tout dépend de ta définition d'intuitivité. T'sais, moi, j'ai l'éducation en nutrition, puis je propage l'éducation en nutrition qui te permet de savoir que, par exemple, on a besoin d'avoir beaucoup de glucides dans un entraînement d'endurance de longue durée, par exemple de 1h30 plus, puis qu'on a besoin de l'intégrer environ à chaque 45 minutes, tout dépendamment aussi c'est quoi le type d'effort, mais qu'on va vouloir intégrer des glucides dans notre workout.
Ouais.
Après ça, ben, ça devient intuitif d'avoir un protocole de glucides dans cette compétition-là, mais reste que le niveau nutrition sportive intuitive, ça s'applique beaucoup plus à dans le restant de la journée que intra-workout. Ça, c'est moins intuitif. On doit forcer des choses.
Est-ce qu'on peut aussi, puis je me doute de la réponse, c'est un petit peu une question rhétorique, mais est-ce qu'on peut aussi, au fil des habitudes, au fil d'en faire, au fil de faire des entraînements, des courses, des longs efforts, faire plus confiance à son intuition qu'à des études scientifiques, mettons? Puis comment est-ce qu'on se tune avec notre inner nutritionniste?
C'est vraiment une bonne question parce qu'il y a souvent, il y a deux types d'athlètes, là, les athlètes qui vont all feelings, puis les athlètes qui vont all data, puis tu sais, beaucoup trop... mettons, trop étant pas nécessairement négatif, à cheval sur des recommandations versus le contraire, il faut que ce soit entre les deux. Puis le principe d'une consultation en nutrition avec un nutritionniste sportif, c'est ça.
C'est ça.
Parce que la donnée, là, tu peux la trouver n'importe où, malheureusement. Là. On ne sert pas à transférer de la donnée qui existe. T'sais, oui, on peut faire de l'éducation, etc. Mais après ça, j'ai beau dire à ma coureuse...
C'est ça, j'ai pas besoin d'aller voir un nutritionniste pour me dire que les recommandations, c'est 90 grammes de glucides à l'heure.
C'est ça. Au final, tu peux l'apprendre sur des podcasts, sur des chaînes YouTube, plein d'affaires. Fait que ça, de base, oui, on va le faire, mais c'est pas à ça que ça sert. Ça, ce qui sert, c'est à faire des tests, voir qu'est-ce qui fait pour toi, donner des cues aussi, à être capable de voir comment, dépendamment d'où tu le places, comment tu te sens, puis de faire des tests différents, puis de proposer des tests différents aussi. Fait que il y a 100% ça dans la nutrition sportive, puis c'est important d'amener ce bémol-là. C'est pas là, c'est pas là, c'est ici. Puis mm-hmm. ça, c'est le résumé là, de la nutrition au complet. C'est
ouais.
gris.
Ouais, ouais.
C'est
ben gris, en fait, gris, c'est gris, le résumé de la vie au complet.
Ouais, hein. ouais, ouais.
Même au
ouais,
niveau ouais. Des techniques d'entraînement, ouais, tu sais, ouais, c'est la même chose. Là, c'est comme, OK, il y en a qui sont crissement, genre, si je dépasse d'un battement par un battement par minute, mon seuil anaérobique, je suis over the line. Puis
la fois que je vais au feeling, crème, j'ai PR.
Ouais,
c'est la
ouais.
fois que je suis allé au feeling.
Puis t'as l'autre qui va juste au feeling constamment puis qui bunk aussi, tu sais, fait que genre
qui comprend pas pourquoi il bunk à chaque ouais. course, tu sais, ouais. fait que c'est une nuance entre les deux, puis tu sais, c'est pour ça que les athlètes avec beaucoup d'expérience sont souvent meilleurs, mm-hmm. tu sais, oui, il va y avoir des petits jeunes qui vont spiker puis qui vont être là très rapidement, mais la majorité des athlètes qui sont établis, ben ils sont plus âgés, ils en ont plus longtemps de fait, puis ils ont déjà fait ces erreurs-là, ils ont déjà trouvé un peu ce qui marche pour eux, puis c'est un peu la même affaire pour Jeff. Là, je sais pas si on peut en parler vu qu'il
ouais,
est
ouais,
décalé.
Oui, dans le fond. Ouais, si vous écoutez le Sans Fil podcast, Jeff Adler, le fittest man on earth, il va être sur le... Soit il est déjà passé ou soit il va s'en venir. En tout cas, l'épisode est tourné, fait qu'on peut en parler.
Mais, tu sais, il y a quelque chose que lui fait au niveau de la nutrition qui est différent de ce qu'il recommandait exactement dans la précision. Puis lui, se basait beaucoup là-dessus, sur cette croyance-là pour se fueler. Puis moi, j'essayais d'y apporter justement une petite nuance là-dedans, puis d'aller quand même se fier aux évidences plus récentes, etc. Puis ça l'a fait une grande différence, je pense, moi, sur sa performance cette mm-hmm. année, d'intégrer, par exemple, plus de glucides, puis différents types de glucides, puis avoir un protocole, etc.
Ouais. Fait que,
d'être d'un côté ou de l'autre, c'est jamais nécessairement
la réponse
bon.
Est au centre.
Ouais.
Puis tu parlais tantôt du fueling pendant la journée.
Ouais.
Comment est-ce que tu te fies à ton intuition pour ça, cette ouais. partie-là?
Bon, c'est là que vient un peu tout le contexte du cadre ou du guide alimentaire que moi j'aime plus appeler qu'un plan alimentaire. Quand on parle de plan alimentaire, c'est strict, c'est rigide, c'est pareil dans le temps d'une journée à l'autre, puis c'est basé sur des calculs qui ont beaucoup de marge d'erreur.
Ouais.
Puis un guide, un cadre, ben c'est justement une genre de délimitation où on va vouloir se situer pour être sûr d'avoir tout ce qu'on a besoin pour un bien récupérer, puis aussi bien performer, puis aussi bien sentir niveau justement santé mentale, santé physique. Si tu restes dans ce cadre-là, tu vas avoir tout ça ensemble, puis c'est là qu'on va atteindre un petit peu la peak performance. Okay? Mm-hmm. Fait que le cadre, le fameux cadre, souvent, c'est par exemple de montrer à l'athlète c'est quoi un repas complet. Fait que mettons que je veux toi-même te montrer c'est quoi un repas complet, ben j'irais voir, OK, c'est environ le tiers de ton assiette en source de protéines, le tiers de ton assiette en source de glucides, puis le tiers de ton assiette en source de légumes.
Mm-hmm.
C'est zéro sexy. Je t'ai pas dit de manger un aliment précis qui va changer ta vie. Je t'ai juste parlé de source de, puis de catégorie d'aliments.
Ouais.
That's it. Extrêmement facile à suivre. Peut se faire chez ton ami, chez ta blonde, chez ta sœur. Très peu de stress au niveau de l'alimentation. Puis tout ça ensemble va te donner tout ce que tu as besoin, ou presque, pour justement très bien récupérer d'un entraînement ou performer à ton prochain.
Mm-hmm.
Puis plus tu augmentes en termes de niveau d'élite ou de précision de la nutrition, ben plus tu vas avoir un suivi précis où, par exemple, un nutritionniste, lui, sa job va être de calculer son fameux un tiers, un tiers, un tiers sur 3 jours. C'est quoi la moyenne que ça me donne? Je suis over, je suis under? Puis quelles recommandations je peux lui faire? Par exemple, de faire des choix de sources de protéines un peu plus riches, ou si justement il y a mieux des choix de protéines végétales moins riches, ben, par exemple, on va balancer ce fameux un tiers-là. Fait que c'est des adaptations que tu fais avec un professionnel qui te permet après ça d'aller plus dans la précision. Ça veut pas dire que je vais pousser l'athlète à plus compter, à plus mesurer.
Ouais.
Ce stress-là qu'on met sur le dos de l'athlète, c'est comme un stress de l'entraînement, mais il est continu. Ça nuit à sa performance. Puis c'est quelque chose qui est super important à comprendre aussi. C'est que ce qui va nuire à la performance, c'est pas juste, par exemple, de pas avoir assez mangé. La genre de maladie mentale qu'on peut faire autour de la quantité de grammes de riz que j'ai pas mis, puis la quantité de protéines qui vient jouer sur, oui, ta santé mentale, mais ta préparation mentale pour ta performance,
mm-hmm.
va avoir un gros impact. T'sais, la préparation mentale, puis le stress psychologique que tu peux vivre a beaucoup, beaucoup d'impact sur ta performance, puis c'est underrated en ce moment dans le discours populaire.
À quel point c'est important.
Ouais.
Puis, mettons, moi, je... mettons, le matin, c'est rare, j'ai faim. Là.
Ouais.
C'est vraiment rare, j'ai faim. Puis, intuitivement, je mange pas avant 13h, mettons. Ouais. Tu sais, à peu près. Peut-être midi, mettons, là, mais très, très rare. À moins que j'aille un training où est-ce que là, je me force à manger parce que je... Par expérience, manger, aller m'entraîner à jeun, ça chie tout le temps. Là, ça, est-ce que quand, mettons, t'as un client, tu travailles avec quelqu'un qui t'arrive avec de quoi de même, tu fais genre, tu sais, faut que tu manges trois fois par jour. Tu sais, mettons, c'est quoi le... Tu sais, je sais qu'on l'entend souvent, ouais. Là, le trois fois par jour puis tout, mais Marie-Lou. Si mon instinct... Ouais, c'est ça, mais si mon instinct fait que j'ai pas faim, man, ouais. J'ai pas faim, là, tu sais, ça me tente pas de me forcer... à manger alors que j'ai pas faim, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Si ta priorité, c'est la performance puis la récupération, fait que ça va être ça le premier cas de figure, ben, je vais te faire manger le matin pour te voir comment tu vas te sentir, puis comment ça peut impacter, mettons, ta semaine, puis ça va devenir intuitif pour toi d'intégrer ce repas-là.
Ouais.
Ça veut pas dire que c'est un déjeuner, là, mais un premier repas, puis de séparer, par exemple, en une fréquence alimentaire environ de 6 repas, 6 apports alimentaires dans une journée, au lieu de, par exemple, 2 gros ou 3, mais pas de collation, etc.
C'est préférable, ça. Là.
C'est préférable d'avoir des apports réguliers dans ta journée en termes de glucides et en termes de protéines pour plein de raisons. Mais ça dépend aussi de ton objectif, quand même.
Ouais.
Si, tu sais, je suppose que ton objectif, c'était la pure performance, mais souvent, l'objectif est de perdre la masse adipeuse, OK?
Ouais.
Puis ça, encore là, les gens vont tendance à vouloir réduire leur apport calorique, fait qu'à vouloir éloigner le moment qu'ils vont intégrer de la nourriture.
Ouais.
Mais ça, dans la littérature, c'est vraiment beaucoup démontré que plus on attend longtemps avant de manger, il y a deux choses qui se passent. Tu fais des moins bons choix alimentaires, puis t'es pas capable de manger selon tes besoins. T'es pas capable d'écouter tes signaux de satiété. Mm-hmm. Fait que pour ces raisons-là, j'essaierais de t'introduire à cette éducation en nutrition-là, puis j'essaierais de te convaincre de l'essayer, premièrement, puis de faire un feedback sur comment tu te sens, puis c'est probablement que tu verrais des bénéfices positifs, puis que, par exemple, je sais pas moi, tu aurais peut-être une meilleure récupération, peut-être plus de jus à la fin de tes entraînements, ou même pas dans ton entraînement, dans ta journée en général. Je sais pas moi, après tes trainings, t'es tout le temps dégueu, t'es pas capable de travailler efficacement.
Ouais.
Mais là, au contraire, t'auras encore de l'énergie, t'auras encore du gaz, parce que t'aurais fiolé sur une plus longue période.
Ouais. Ce que tu viens de faire là par la bande un peu, c'est d'attaquer aussi le jeûne intermittent.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait avec ça, le jeûne intermittent? C'est quoi ton opinion sur le jeûne intermittent?
C'est exactement ce que je viens de te décrire. Ça fait développer des mauvaises habitudes alimentaires. Puis là, va venir un peu mon côté de ma maîtrise puis d'un petit peu mon doctorat, mais je suis étudiant en doctorat, là, ouais. J'ai pas terminé. Mais tout le côté comportement alimentaire, ça te fait développer des mauvais comportements alimentaires. Puis là, ça veut pas dire que c'est grave de le faire, tu sais. Même affaire pour le keto, c'est un petit peu la même rhétorique, ça fait développer des mauvais patterns alimentaires. Mais si quelqu'un le fait en ce moment, c'est pas grave. Il n'y a absolument rien de grave à le faire. Au contraire, tu sais, dans des cas de figure super précis, puis il y a certains docteurs un peu weird sur certaines études sketchy qui vont essayer d'intégrer ou de démontrer des effets bénéfiques de ça, tu sais. Mais peu importe l'effet bénéfique court terme que tu peux aller chercher, même si c'est mal démontré, mais je ne ferai pas l'éventail là-dessus, mais au final, tu développes, par exemple, l'habitude alimentaire d'avoir extrêmement faim avant de manger. Okay? Puis ça, on ne veut pas ça. Plus tu vas garder ton niveau de faim, comme j'aime le dire en joke, là, mais là, en fleuve tranquille de la satiété, okay?
Ouais, c'est bon.
En petite vague, pas d'énorme up and down, plus tu vas être capable de manger selon tes besoins. Okay? Fait que si, par exemple, tu es sur un plan alimentaire strict, tu es un robot, tu n'as pas d'émotion, puis tu te fies à ton plan, tu as raison que tu peux attendre 13 heures avant de plugger tout ton plan, mettons, puis tu arrives avec un nombre de calories X à la fin de la journée, d'attitude, tu es un robot, tu sais. Mais si t'es pas un robot puis t'es un être humain, ben il va arriver plein de choses dans ta vie qui vont faire que tu vas devoir peut-être manger plus tôt ou manger plus tard ou avoir envie d'un aliment ou envie d'aller manger ailleurs ou envie de cuisiner quelque chose de précis. Ben on veut être capable de montrer à la personne et à l'athlète à manger selon ses signaux de faim. Fait que si tu développes l'habitude d'avoir un pattern alimentaire qui te permet pas de l'écouter, fait que par exemple d'attendre extrêmement longtemps avant de manger, ben on n'est pas gagnant là. T'es en train de t'entraîner à pas écouter tes signaux de faim, puis d'affaire un gros creux de vague, puis de pas être capable de viser tes besoins, fait de manger plus que tes besoins dans la majorité des cas, puis en plus, ça a un effet sur les choix alimentaires.
Ouais.
Ce qui est dommage, parce que là, tu développes l'habitude de craver certains aliments que t'aurais pas cravé nécessairement si t'avais eu une gestion de la faim beaucoup plus calme, beaucoup plus
étendue toute ta journée. Là.
Ouais.
Puis est-ce que aussi, j'imagine que on avait reçu... Nicolas, mon ami Nick, qui est un nutritionniste sportif, t'as peut-être écouté l'épisode. qui lui nous parlait de la quantité maximale que le corps peut utiliser de protéines pour la synthèse musculaire.
Ouais.
Fait que j'imagine que ceux qui veulent maximiser leur synthèse musculaire, leur réparation musculaire, c'est aussi bien avantageux de consommer des protéines toute la journée.
Ben oui, 100%.
Parce que la limite est quand même vraiment faible là, sur un bloc de comme 3-4 heures. Tu sais, mettons, il y a du monde qui me... Tu sais, j'ai partagé qu'est-ce que je mange dans une journée, mettons.
Puis là, qui disait que tu mangeais pas assez de protéines.
Je mangeais pas assez de protéines, mais genre... Comme honnêtement, j'ai mangé 5 fois dans ma journée. J'ai mangé autour de 25 grammes de protéines à chacune de ces fois-là. Je vois pas où j'aurais pu en glisser plus parce que de toute façon, j'aurais pas pu en prendre 50 parfois
je l'aurais pas
utilisé, tu sais.
Il y a plusieurs bémols à ça que je suis sûr que Nicolas serait d'accord, là, juste au fait que les différences interpersonnelles sont très grandes à ce niveau-là.
Probablement.
Là. Plus j'ai de la masse musculaire, plus je vais être capable d'en intégrer aussi. Fait qu'il y a ça. Puis, il y a le côté aussi que, justement, de régulièrement intégrer des protéines, ça fait pas juste faciliter l'absorption. Ça permet une meilleure gestion de la faim. Puis, tu sais, je parle aussi, je prends aussi pour ma paroisse de mon projet de doctorat qui est sur la satiété, mais reste que dans des cas de personnes qui veulent perdre du poids ou gagner du poids, c'est souvent la faim, l'échou le plus grand. Mm-hmm. Puis, je le dis pas par expérience, la littérature démontre que ce qui cause les regains de poids suite à une perte de poids, c'est des problèmes au niveau du contrôle de l'appétit.
Ouais.
Le contrôle, j'aime pas ce mot-là, mais reste qu'en littérature, on dit ça. Fait que c'est problème avec la gestion de l'appétit, la faim. Fait que tous ces trucs-là, ces patterns-là alimentaires qui permettent de mieux la gérer, et pas juste ça, il y en a plein d'autres. Ben, c'est ça qui fait qu'au final, tu as des saines habitudes alimentaires qui font que sur du long terme, ben, tu vas améliorer, oui, tes performances sportives, mais aussi ta santé en général. Mm-hmm. Puis au final, le vrai but qu'on devrait viser, qu'on vise à perdre la masse adipeuse.
Là. Ouais. Puis j'écoutais sur Netflix, il y a une série sur les zones bleues. Là. C'est comme des zones où est-ce que les gens... c'est des zones où est-ce qu'il y a un pourcentage de centenaires vraiment plus grand sur la longévité, dans le fond.
Ouais.
Puis, fait que là, le gars, il se promène, puis là, il essaie de faire des apprentissages de chacune de ces zones-là. Puis, il y a une affaire qui ressort, puis que ça me parle quand tu dis ça. Au Japon, ils ont comme ils mangent, puis là, ils ont comme une phrase en mangeant, puis c'est genre, essentiellement, ça veut dire arrête à 80% de manger, tu sais. Ouais, ouais. Y a-tu quelque chose par rapport à ça, tu sais, de pas jamais se rendre à comme. À défoncer son assiette jusqu'à être loadé ben raide.
Il y a plein de choses là-dedans. T'sais, le message qu'on voudrait propager, ça serait pas 80%. Parce que, tu sais, encore là, il faut toujours se dire là, qu'il y a un pan de la population qui mange pas assez. Mm-hmm. Puis, dans les athlètes, probablement, qui écoutent le podcast,
il doit en avoir beaucoup.
Selon moi, il y en a plus qui mangent pas assez qui mangent trop.
Ouais.
Fait que mon message, je veux pas qu'il soit tourné vers ça.
Je comprends.
Mais, anyway, le fameux 80%, c'est juste de replacer ton 100%. Puis nous, en consultation, en nutrition, on est capable de faire des genres de protocoles de reconnaissance des signaux de satiété. Ça a l'air full technique, mais c'est genre de te poser des questions de faim. Là.
Ouais, ouais.
Juste de te poser des questions
de
comment tu te sens. Là. Ben, faire ça, naturellement, ça ressente ton 100%. Mm-hmm. Tu réalises que tu donnes des cues à la personne. Par exemple, comment tu te sens quand tu es rendu à... Là, on est sur 10, mettons, puis on vise, par exemple, 7, qui n'est pas 70% plein. Mais on donne un cue qui est c'est quoi 8, on donne un cue c'est quoi 6, on donne un cue c'est quoi 3, puis on donne un cue c'est quoi 4. Puis on veut que tu le notes les moments où tu es capable de le ressentir pour savoir quand initier une prise alimentaire, puis quand arrêter une prise alimentaire. Fait que c'est tous des trucs qui te permettent après ça de reconnecter avec ta faim. Parce que ça, c'est hyper classique quand on parle d'alimentation intuitive encore là. De nutrition sportive intuitive, de dire « Mais je la ressens plus, ma faim.
Ouais.
Je l'ai jamais ressenti. » Je
suis pas capable de mettre le doigt sur c'est quoi, mettons.
« Man, ça fait 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, peu importe ton âge, que tu travailles à pas l'écouter.
Ouais. »
À genre prendre des grands verres d'eau quand tu commences à avoir faim. C'est sûr que genre ça va pas du jour au lendemain revenir. Puis dès que tu vas vouloir écouter ta faim, c'est même affaire quand on a une très forte restriction. On peut rentrer dans la restriction, mais très forte restriction sur un aliment. Puis là, moi, j'essaie de le réintégrer parce que c'est un aliment plaisir que tu te coupes depuis X temps puis que tu binge-eat à des moments précis. C'est comme, c'est sûr que la première fois, tu vas perdre le contrôle.
Ouais.
On est en période de restriction depuis X années. Tu fais des up and down en lien avec cet aliment-là, non-stop. Faut que tu te donnes le temps de réintégrer cet aliment-là. Puis chaque personne est capable, là, c'est en faisant les bons efforts puis de mettre l'énergie à bonne place, de réintégrer une relation saine avec n'importe quel aliment.
T'sais. Ouais. Tu mentionnais que les gens qui écoutent le podcast mangent probablement trop peu.
Ouais.
Ma meilleure performance depuis que je fais du trail running, là, ça s'est passé à Gaspé, en Gaspésie. Puis ah ouais. Là, je m'étais dit, man, t'as 3 jours. C'était 3 jours de course. Puis je me suis dit, là, man, tu manges, là, comme.
Tu fais le test.
Comme un débile mental.
Est-ce
genre.
Qu'avant, tu mangeais pas beaucoup pour dire ça? Ou tu t'en fous?
Avant, je mangeais normal. Okay. Je faisais rien. Genre, je mangeais comme s'il n'y avait pas d'épreuve le lendemain, mettons. Okay. Je faisais pas. Tu sais, je mangeais peut-être un petit peu plus de carbs qu'à l'habitude, mettons. Parce que je me rappelle, tu sais, parce que, genre, je m'étais fait dire que le spaghetti.
J'allais dire ça.
Le spaghetti avant une compétition de natation, mettons, tu sais, classique. Fait que je faisais pas nécessairement attention. Mais là, je me suis dit, là, carbo load, là, à proprement parler, mais à me rendre. Presque malade, tu sais, à genre me force feed quasiment, puis je voulais faire le test.
Ouais.
Je voulais me dire, hey man, là, je vais vraiment aller au-dessus de qu'est-ce que je mangerais normalement. Puis ça, genre, encore aujourd'hui, j'en reviens pas comment j'étais
good,
comment j'étais bon le dimanche encore.
T'avais-tu un deuxième souffle, mettons?
J'étais genre, le dimanche, j'ai commencé à courir, puis j'avais un 54 fait la veille, puis genre, avec 2 fois le cadran à 3 heures du matin,
pas le meilleur
je me
sommeil.
Suis levé le dimanche, j'étais même pas courbaturé. J'étais arrivé, je me suis dit, ah man, ça va être tough aujourd'hui. J'ai commencé le premier kilomètre, j'étais genre, hey man, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi je suis bon de même? Genre, puis ça a été de loin, le dimanche a été ma meilleure perfo puis de la fin de semaine. Puis cette fin de semaine-là a été ma meilleure perfo
ever.
Fait que, est-ce que j'avais raison? C'est-tu juste dans ma tête? C'est quoi qui s'est passé?
Ben. Il y a une partie que c'est juste dans ta tête, c'est sûr.
Probablement.
Parce que, tu sais, encore là, comme j'expliquais tantôt, notre perception de qu'est-ce qu'on fait a un gros impact sur qu'est-ce que ça va faire réellement. Tu sais, je ne rentrais pas dans les détails du placebo, là, mais tu sais, n'importe quel professionnel de la santé, on a un genre de cours un peu là-dessus.
Ouais.
Ça démontre à quel point le contexte puis la perception de ce que tu fais va avoir un impact. Puis en recherche, on le sait parce qu'on le dit pas aux gens qu'est-ce qu'on leur fait faire. Mettons qu'on leur fait faire une diète, là. On s'assure le plus possible qu'ils comprennent pas c'est quoi.
Ouais.
Parce que sinon, ça a trop un gros impact sur réellement s'ils vont perdre du poids ou non.
Fait que, je comprends.
Peu importe. Sans le vouloir, t'as fait un carb load parfait. Ben, ouais. Parfait. Genre, tu sais, le principe du carb load, okay, le principe même, puis on peut en parler plus deep, là, même si je veux pas me proclamer le prêtre du carb load absolu, là, mais reste que globalement, là, si vous voulez en faire un à la maison avant une compétition puis avoir ce gap-là, c'est vraiment facile. Puis ça aussi, c'est un truc poche que les gens ont pas comme éducation, nutrition, qu'ils peuvent pas intégrer. Un muscle avec la quantité de glycogène qu'il y a dedans, il peut se gonfler comme une ballonne. Okay? Fait qu'en faisant un carb load, c'est comme si tu soufflais dans ta ballonne, puis là, pendant un moment précis, t'as plus de possibilités d'emmagasiner du glycogène musculaire. Mais cette possibilité va réduire comme une ballonne qui se dégonfle.
Ouais.
Mettons. Fait que, puis pour faire ça, c'est de faire un gap avec ce que tu manges d'habitude en termes de quantité de glucides. C'est peu importe c'est quoi, le gap passe de 0 à 400 ou de 400 à 800 comme un Ironman ou un athlète de triathlon, ben c'est le gap qui importe. Okay? Puis c'est tout le temps ça qu'il faut retenir parce qu'avant
c'est la
mode,
différence entre ton baseline puis
le
ton
max
carb load.
Fait que souvent, la vieille mentalité, c'était de couper les glucides la semaine avant,
puis de
souvent
booster.
Dans la taper week, puis après ça, faire un carb load direct après. Puis on a réalisé que c'était pas nécessaire, puis que même, encore là, pour revenir à l'aspect psychologique du sport, on se rendait même compte que ça réduisait un peu la performance comparativement à juste faire garder la même chose puis jockey, parce que quand on droppait, les gens se sentaient vraiment plus faibles, moins bons, moins
la
bonne récupération
avant.
La semaine avant. Ça joue sur ta confiance. Puis là, après ça, on les refaisait jacker, mais pas, c'était pas assez fort l'effet pour contrebalancer la genre de arrière-pensée de « Ah, je suis assez fit,
je suis pas prêt, là, je suis bien tapé. »
Fait que, pour venir au truc, tu gardes la même chose que d'habitude, puis tu crées le plus gros gap possible.
Ouais.
Bon, ça se travaille, ça, ce gap-là. Le premier gap que, tu sais, par exemple, juste même avec Jeff, on s'est fait juste un call avant les CrossFit Games en lien avec ça, puis je voulais y faire un petit gap, parce qu'il est pas habitué. Il est pas habitué de manger beaucoup de glucides, Jeff. Fait que, je voulais faire un petit gap. Puis ce petit gap-là, là, il l'a senti vraiment beaucoup. Fait qu'imagine quand on fait un vrai protocole, quand c'est pas ton premier carb load, puis que là, ton gap est rendu à 400. Tu sais, il y a des triathlètes en Ironman là, qui font des gaps genre de 600 grammes de glucides.
600 grammes de glucides entre leur baseline, puis ce qu'ils mangent. Ouais,
c'est des malades. Genre.
Fait que genre, ils sont rendus comme à 1000 grammes de glucides dans une journée.
Puis c'est
4000 calories de glucides.
Ouais. Puis ils sont capables de digérer.
Ouais.
Parce que c'est surtout ça.
Ouais.
Parce que là, un carb load, si vous le faites à la maison, vous allez allez voir, si vous faites un trop gros jump, bien, vous allez avoir beaucoup de gaz. Ouais. Vous allez vraiment aller souvent à la salle de bain. Ça sera pas le meilleur feeling de
votre
vie.
On salue, je sais pas s'il va aimer que je raconte cette anecdote-là, mais sûrement, on salue mon chum Jay du Temple qui était avec moi à cette course-là en Gaspésie. Okay. On avait un Airbnb ensemble, puis j'y ai dit « Amen, long carb load ». Mais lui... Il mange, man. Il mange pas de carbs tant que ça. T'sais, il mange des carbs comme n'importe qui dans le monde.
Jamais
mais
fait.
Il n'avait jamais fait de carb load.
Ah, c'est un bon exemple.
On a carb load le vendredi. On a carb load le jeudi. Vendredi, mais le jeudi, pas tant que ça parce que c'était juste un 12 km le vendredi. Mais le vendredi soir, on s'est loadé. Puis Jay a passé la course au complet à s'arrêter sur le side pour chier à terre parce qu'il a pissé dans le bois, là, tu sais, parce qu'il était genre, ouais. Il était pas habitué pantoute, ouais. Tandis que moi, j'ai eu besoin d'aller à la toilette une fois dans ma course, puis c'était à 35 kilos, puis il y avait une toilette, tu sais, j'ai pas chié dans le bois parce que c'était comme.
C'était pas urgent,
c'était genre, je vais arrêter tant qu'à être ici, ouais. Tu sais.
Hey, gros, on le salue d'ailleurs. Ironman, par contre.
Ah, énorme Ironman ici, c'est un animal,
ce gars-là. C'est un énorme temps.
Ah, ouais.
Mais
ouais.
Reste
non,
que
Jay, il est vraiment fort.
C'est l'exemple. Parfait de ce que je viens de décrire. T'sais, si tu fais trop un gros gap, pas encadré, mettons, par un nutritionniste,
ouais.
Ben, c'est ça qui va arriver.
T'sais. Si tu fais un gros gap parce que le gars avec toi dans l'Airbnb convainc d'en faire un.
Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il faut que tu adaptes le gap. Puis, tu sais, moi, je fais littéralement des carb loads depuis ma première compétition ever de CrossFit. Fait que mon carb load, il est pas mal plus aiguisé, intense. M'apporte beaucoup plus de bénéfices que le premier à Jeff, mettons.
Ouais, ouais, c'est
même
ça, je
si
comprends.
C'est pas un vrai carb load.
Parce que Jeff nous en parlait justement pendant le podcast qu'on a fait avec. Il nous disait qu'il force feedait entre les journées. Fait que j'imagine que ça venait de toi, ouais.
Alors, je vais prendre aucun crédit sur ce qu'il a fait, là, mais still. Fait que c'est ça. Fait que faut que tu le fasses comme il faut. Puis ce gap-là, il est important, mais il est important aussi de le quantifier puis de tranquillement l'augmenter. Ouais. Puis la limite est infinie. Puis tu sais, là, tu me parlais en termes de temps avant, la veille, toi. Mais quand je parle de carb load, moi, souvent, c'est 2 jours, 3 jours, ouais. 4 jours. On peut faire
jusqu'à 4 jours
avant.
Ouais, hein.
6 jours avant. Fait que tu sais, un 3 jours où tu augmentes légèrement ta quantité de glucides, mais genre avec des glucides dans tes repas, là. Fait que souvent des féculents,
ouais.
Plus riches en fibres, plus un petit peu plus compliqué à gérer, plus solides. C'est pas nécessairement juste à coup de Gatorade puis de bonbons.
Ouais.
Ça, c'est les 3 premiers jours pour tranquillement t'habituer ton tractus gastro-intestinal à justement digérer un petit plus de glucides. Puis c'est là dans les 3 jours avant pour une compétition de CrossFit, par exemple, de 3 jours ou ça peut être une course de 2 jours, fait que ça serait du 2-2-2,
ouais.
Que là, tu viens faire le méga gap.
Puis le méga gap, peu importe c'est quoi le type de glucides que tu jacks, c'est des bonbons, des candy, t'sais, n'importe quoi. Là.
Mais encore là, il y a une façon d'encore plus le spécialiser. T'sais, parce que, je sais pas moi, je le teste, puis là, je me rends compte que moi, les bonbons, mais je peux pas en rentrer tant que ça. J'ai comme une limite au niveau du goût, au niveau du fait que c'est très fort en saveur puis en ouais. Goût sucré qui vient me bloquer. Comme un peu, je sais pas moi, tu manges des glucides dans une course
n'importe
très longue,
ouais.
Tu sais. Fait que, à un moment donné, tu tannes du goût, etc.
Wow, ouais.
C'est la même chose. Il faut que tu trouves des aliments qui sont pas nécessairement riches en gras, riches en sucre, raffinés. T'sais, faut que tu trouves des aliments qui vont être riches en glucides, qui vont te permettre, oui, d'accumuler vraiment beaucoup, mais pas que tu vas nécessairement tanner au point de plus être capable d'en manger.
Ouais.
Parce que souvent, pendant la compétition, c'est là que
tu
as encore plus besoin
prendre,
de ces
ouais.
Sources-là extrêmement raffinées. Fait que souvent, c'est même pas par souci de genre, des bonbons, c'est pas une bonne source de glucides, c'est genre...
C'est juste que tu vas manger des bonbons demain là, pendant la course. Là.
C'est ça. Tu vas en manger en talent tes événements de CrossFit ou en
ouais.
Tes courses ou dans ta course. Fait que clenche-toi pas tout ça là,
ouais.
Là tu vas être tanné.
Puis est-ce qu'il y a une contre-indication de faire en liquide?
Non, vraiment
c'est
pas.
C'est mettons, moi j'aime crissement la liqueur, là. J'en bois pas ouais. Tant que ça, mais mettons dans mon carb load, je fais quand même là, je vais boire de la liqueur aujourd'hui.
Exact, ça serait vraiment correct. C'est sûr que là, il y a tout le temps, je reviens encore à mon côté comportement alimentaire de dire genre, là, si tu pognes l'habitude pendant 6 jours de boire full de coke, après
ouais.
Ça, c'est quoi que ça va faire sur le restant? Puis tu sais, je peux montrer une mauvaise relation avec le coke.
Ouais, je comprends.
Souvent, j'aime bien les poudres glucidiques,
ouais.
Les Gatorade de ce monde. J'aurais peut-être pas dû dire Gatorade.
Ouais, écoute, man, je pense que le monde est au courant que Gatorade existe, là, rendu là.
Les différentes sources de glucides liquides qui sont un peu comme pour sportifs, ben en plus, souvent, tu as une bonne balance électrolytique qui
ouais.
Vient avec ça. Fait que je favorise ça souvent.
Ouais, wow, fait Gatorade ou Ipica si vous écoutez le podcast. ouais, puis OK, fait que ça pour le carb load, puis là revenons à j'ai
ouais.
Comme pris une tendance avec l'autre question mais
ouais.
Revenons à la question des gens qui nous écoutent qui disent OK, ben pour augmenter mes performances, probablement que je mange pas assez ou
ouais.
Tu moi de ta théorie ce serait que la plupart des athlètes d'endurance ne mangent pas assez.
Ma grande théorie.
Ouais. Puis mettons quelqu'un qui nous écoute qui dit OK là, qui aurait peur de je te cite ouais. Ce qui s'en vient. De dire ben là, moi, en ce moment, je garde un poids constant. Puis là, je suis conscient que parler du poids, c'est pas super d'un point de vue sociétaire.
Vas-y. Vas-y, tu
mais
vas voir,
là, en parlant du sport d'endurance, parler du poids, les gens sont quand même conscients du poids. Puis non seulement qu'il y en a qui trouvent qu'ils sont à un poids qui les rend confortables, puis qui se disent en ce moment, je mange tant, je fais mon activité physique, puis je conserve ce poids-là. Puis qui auraient peur en t'écoutant de dire, mais là, il faut que je mange plus, mais si je mange plus puis je fais pas plus d'activité, je vais prendre du poids.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Il y a plein de réponses à ça. Ce qui va te faire prendre du poids ou non, on le sait comme que là, théoriquement, c'est d'avoir un surplus calorique de
fait.
X pendant plusieurs jours, puis là, sur une semaine, tu vas gagner une livre, puis là, ça va faire peur.
C'est ça qui ferait peur, mettons. Ouais. Ce serait ça l'idée qu'on a préconçue de dire, ben là, plus de calories in, autant de calories out, prise de poids.
Prise de poids. Par contre, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on mange, si on mesure pas ce qu'on mange, puis ça, c'est ce que je pousse les gens à faire, un peu pour ça, ben on mange selon notre niveau de faim. Puis, OK, notre corps, on l'oublie, là, mais il nous envoie des signaux biologiques pour nous indiquer qu'est-ce qu'on a besoin en termes de quantité d'énergie qui a l'air pas précis. Mais si ça, c'est pas précis, nos calculs pour mesurer ta sortie énergétique qu'on utilise ou que tu peux utiliser sur Internet sont pas précis aux autres non plus.
Ouais.
On est fair square là-dessus.
Quand ta montre te dit tant de calories brûlées,
elle est bien pire que tes signaux de faim.
Elle a aucune idée de combien de calories t'as brûlées.
Puis plus tu travailles tes signaux de faim, plus tu vas être précis là-dedans. Fait que peu importe. Mais quand tu vas, par exemple, augmenter la quantité de glucides que tu vas manger, ben ça va changer la proportion de ton assiette. Fait que tu sais, on parlait tantôt du un tiers, un tiers, un tiers. Mais souvent, si par exemple, je vois que... Je sais pas, moi, je travaille avec une coureuse qui mange pas assez. C'est un truc très classique parce qu'elle a peur de prendre
du
poids.
Fait, ouais.
Ben, si j'y fais augmenter sa quantité de glucides, ben, peut-être qu'elle aura moins faim pour, je sais pas, moi, la petite collation du soir qu'elle avait pris. Ou genre, je sais pas, moi, le craving de un biscuit ou un truc qui avantage pas à grand chose sa performance. Mais moi, ce que je veux lui faire augmenter, c'est par exemple la proportion de riz qu'elle a dans son assiette ou d'y faire ajouter une collation pré-entraînement. Puis l'autre côté que je vais amener, fait que là, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça balance souvent.
Ça balance ton même si tu manges plus, ton corps va réguler pour
souvent les portions. Ouais. Rajoute à ça le fait que si tu fuels mieux, OK, ça c'est probablement mon meilleur argument, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Si tu fuels mieux, ton intensité à l'entraînement va être pas mal meilleure. Puis une intensité, là, c'est ça aussi qui détermine ta dépense calorique sur l'entraînement. Que tu cours 10 kilos aujourd'hui là ou 10 kilos demain, c'est pas la même dépense calorique que tu vas avoir.
Mm-hmm.
Fait que tu fuels mieux ces 10 kilos-là, puis que même si c'est un pace précis, tu suis le pace, mais tu vas pas avoir la même dépense calorique nécessairement que si tu l'avais mal fuelé, puis que là, finalement, ce pace-là est super difficile à tenir ou justement, tu dépasses le pace parce que t'es pas capable de le tenir, puis tu finalement fais ça 30 secondes plus lent. T'sais. Fait qu'au final, de mieux fueler ton entraînement, ça te fait rentrer dans ce que j'appelle le cercle vertueux. Okay?
Ouais.
Puis ça, je vais expliquer ce concept-là. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que le mot vertueux vient de votre podcast au Sans Filtre.
Ben oui. Parce que Doom, il est bon, Doom, il dit tout le temps ça. Ben, il dit tout le temps ça. Il l'a dit une fois, pour ça, je dis qu'il le dit tout le temps.
C'est ça. Mais reste que ça vient. Ça
ah
vient
ouais, hein, nice.
Parce qu'il y a le cercle vicieux en nutrition sportive, mm-hmm. puis il y a le cercle vertueux. Le cercle vicieux, pour mettons montrer le contre-exemple, c'est le principe de se dire bon, ben, je veux garder mon poids que j'ai en ce moment ou en perdre.
Mm-hmm.
Souvent, c'est en perdre pour améliorer ma performance. Mettons,
je mange moins, j'ai moins d'énergie.
Mon entraînement,
je dépense moins de calories.
Je dépense moins d'énergie à mon entraînement. Je récupère mal de cet entraînement-là. Je dors mal. On dépense beaucoup d'énergie quand on dort. Fait que je me lève le matin, j'ai moins le goût de m'entraîner. Fait que je skip la fin de mon training ou je skip mon entraînement complet. Puis t'es dans une roue. Puis même si tu skippes pas l'entraînement, ton intensité diminue. Puis au final, tu dépenses tout le temps moins d'énergie. Fait que ton apport en énergie de moindre va être compensé par le fait que tu vas moins dépenser.
Ouais.
Fait qu'au final, tu vas stagner.
Okay? Ouais.
C'est un peu le même principe aussi quand justement on fuel mieux. T'sais. Si je fuel mieux, je mange plus de glucides, j'encourage les gens à manger plus dans leur repas, une plus grande proportion en source de glucides ou de toujours avoir une source de glucides à chaque repas. Mon prochain entraînement va être meilleur. Puis peut-être que je vais pas plus dépenser, mais il va filer good. Je vais mieux récupérer cet entraînement-là parce que je vais fueler comme il faut après. Je vais très bien dormir, bien récupérer cet entraînement-là, être motivé à mon prochain training, aller pour un PR, plus dépenser d'énergie, puis tranquillement tomber dans ce cercle vertueux-là qui, si on est éloigné de notre poids naturel, on peut parler de poids naturel ceux aussi, on va tendre vers ce poids-là. Puis c'est le poids naturel, moi, chez les athlètes, que j'appelle le poids de peak performance.
Ouais.
Le poids
fait que si tu embarques dans le cercle vertueux,
tu vas tendre
vers atteindre ton poids qui serait essentiellement ton poids de peak performance. Puis fait que le concept tellement malsain du contrôle du poids chez les athlètes, principalement les athlètes femmes, moi j'ai vu de mes yeux vu des filles développer des graves problèmes alimentaires de par un contrôle du poids par l'entraîneur ultra toxique. Mais on entend des histoires comme ça souvent, là, tu sais, le club Nike là, de course à pied.
Un très bon exemple.
C'est ça, la course à pied, c'est super, super...
Le vélo.
Exactement ça. Mais essentiellement, ce que tu dis, puis ce qui semble faire le plus de sens, c'est si tu embarques dans... Si tu ne restreins pas, puis tu fuels comme du monde, tu t'alimentes comme du monde, le corps est bien fait qui va aller vers ta physionomie la plus performante.
Pour l'effort pour ce que tu fais. Puis le meilleur exemple de ça, bon non, je pourrais expliquer le poids de peak performance un peu au début parce que c'est le fun d'avoir ce concept-là en tête. C'est l'équilibre entre quatre sphères. Okay? Fait que c'est comme une balance là, avec quatre sphères comme ça. Puis c'est l'équilibre entre tes quatre. Tu vas voir, ça a l'air super général, mais après ça, quand je vais l'expliquer, tu vas comprendre. C'est la balance entre ta santé physique, fait que pas de blessure, bien sentir, peu importe, bilan sanguin, ta santé mentale, fait que motivation, ta capacité de pousser, etc. Tes habitudes alimentaires qui fuelent tes entraînements, ce qu'on vient de parler, puis ton entraînement, ton habitude d'activité physique. Ces quatre sphères-là, du moment que tu en as une en débalancement, peu importe c'est laquelle, tu vas tendre vers un poids qui est différent de ta peak performance. Peu importe si c'est à la baisse, peu importe si c'est à la hausse. Fait que par exemple, je suis une athlète, une coureuse pour une compagnie de souliers X, puis j'ai des bons scores, okay? Je suis une athlète professionnelle, puis je me fais montrer que si je perds du poids, ben je vais améliorer mes performances. Fait que je me restreins au niveau de mes calories ou de mes apports alimentaires. Fait que j'ai un débalancement au niveau apport alimentaire, puis ça crée un débalancement au niveau de ma santé mentale, par exemple. Parce que là, je vais plus à des événements sociaux, je vais plus au restaurant, j'ai de la misère à avoir des moments agréables avec la nourriture, du plaisir alimentaire. Ce débalancement-là va la faire tendre vers un poids plus faible. Fait qu'on se dit, hey, crème, attends, elle va bien, la fille, là, elle est on the road to a PR, là, elle va tout déchirer, elle perd du poids. Mais finalement, elle va faire les pires performances de sa vie back-à-back, puis finalement, complètement pour l'ordre de la compétition parce qu'elle n'est plus bien, elle est pas nécessairement dans une bonne santé mentale.
Ouais.
Ça fait la même chose avec la santé physique quand tu commences à accumuler les blessures parce que tu ne manges pas assez. Ça fait la même chose quand tu tombes tout le temps malade parce que tu ne manges pas assez. La sous-alimentation, c'est extrêmement dangereux. Puis là, tu sais, on parle d'un côté du balancier, mais l'autre côté existe aussi. Tu sais, je sais pas, je tombe, j'ai une moins bonne... C'est le contraire, là. C'est quelque chose qui provoque, par exemple, une moins bonne santé physique. J'ai tout le temps mal dans mon genou. Puis ça fait un débalancement au niveau de mon habitude d'activité physique. Ouais. Je suis plus capable de courir, j'arrête de courir complètement. Ça débalance mes habitudes alimentaires parce que là, je recommence à consommer de l'alcool.
Mm-hmm.
Ben, au fil des mois, des années, je vais tendre vers un poids qui est plus élevé. Mais peu importe si c'est plus élevé ou plus faible, tu t'éloignes de ton poids naturel ou de, pour un athlète, ton poids de peak performance. Puis cet éloignement-là, qu'il soit positif ou négatif, il est néfaste.
Exact.
Il nuit à ta performance.
Exact.
Puis ça, c'est probablement le message que j'aimerais ça le plus partager à travers le podcast, c'est de justement essayer d'avoir un équilibre dans ces quatre sphères-là pour tendre vers pas un chiffre sur la balance, vers toi, ton poids de peak performance.
C'est ça, parce que ce poids-là de peak performance, il est unique à chacun. Puis si tu as la balance des quatre à faire, tu vas l'atteindre de toute façon sans même y penser, dans le fond.
Exact. Puis quand on a l'arrière-pensée de se dire, ah, je sais pas moi, toutes les gymnastes ont le même poids depuis des années. OK?
Ouais.
Fait que là, tu te dis, ben, je dois probablement avoir un poids similaire ou une grandeur similaire pour faire partie de la gymnastique. Mais c'est juste à cause de la mentalité de tous ces entraîneurs-là qui ont.
C'est la poule avant l'œuf, là.
C'est la poule avant l'œuf, là. Puis, tu sais, les personnes qui avaient un poids plus élevé, qui auraient probablement mieux performé, ont passé toute leur vie à vouloir perdre du poids à place de s'entraîner.
C'est
là.
Ça, exact.
Puis,
exact.
À être dans un cercle vicieux. Puis. Mais là, maintenant, il y a des athlètes en gymnastique qui ont des poids beaucoup plus élevés qu'avant, des corps beaucoup plus gros, sans aucune connotation négative. Puis c'est la même affaire dans le sport comme nous autres au CrossFit. On a des filles maintenant qui ont des corps complètement différents que de la fille super sec, super mince, des gens avec de la masse adipeuse. Puis Krimbin, il gagne les CrossFit Games là, cette année. Laura Horvat, c'est un peu ça l'exemple qu'elle a voulu donner aussi dans son speech. Puis pour les fans de CrossFit, ils savent c'est qui, mais peu importe. Ben, au final, c'est comme son poids de peak performance à Laura Horvat, il est différent du poids de peak performance de l'ancienne championne Tia Claire Toomey, qui elle est super sec, beaucoup plus petite.
Ouais.
On a tous un poids de peak performance ou un poids naturel, si on parle même pas de sport, différent. Puis il faut arrêter de viser quelque chose de précis sur la balance.
Incroyable, man, comme message. J'espère que c'est ça qui va rester parce que c'est vraiment bon, c'est vraiment fort. Et man, là, on dépasse mon temps habituel, mais on va refaire ça, c'est sûr, mon gars. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Tu t'exprimes super bien, man. Puis c'est super clair. Fait que merci beaucoup, man. Puis où est-ce que les gens te suivent?
Ben.boulanger pour la page plus athlète. Comme athlète professionnel, il faut que tu t'avais une page.
Ouais, faut que tu te brandes.
Tu te brandes. Au plaisir de personne.
Ouais.
C'est aussi une page professionnelle, Ben Nutritionniste, où j'ai une couple de capsules qui explique un peu quelques concepts, là, que j'aimerais ça être plus actif dessus quand même, mais reste que vous pouvez aller vous abonner à votre
Je vais mettre ça dans la description du podcast.
Thank you, man.
Très cool, man. Merci.
C'est pas la bonne.
Yes.